Donc nous allons continuer notre parcours. La fois dernière, nous avons plutôt parlé et introduit le cours en général. Peut-être qu'on prendra l'habitude, si vous le voulez bien, vous savez, je vous l'ai dit moi-même, vous m'interrompez quand vous voulez, et c'est bien comme ça, mais je prendrai 5 minutes de temps si jamais vous avez des questions par rapport à ce que nous avons dit la prochaine fois. Donc on fera chaque fois comme ça, en commençant. Ça nous permet de faire une réunion avec ce que nous avons fait précédemment et donc de nous mettre en mémoire. Donc si vous avez quelques questions qui vous ont empêché de dormir cette semaine, n'hésitez pas à me les poser, comme ça on va vous allez dormir mieux la semaine prochaine. Oui, n'hésitez pas.
Le lien entre mystère et sacrement.
Oui, entre mystère et sacrement. Alors j'avais souligné ceci à partir du mot lui-même. Nous connaissons le mot sacrement, et je vous avais dit le mot sacrement vient du mot sacramentum, et que lui-même, ce mot sacramentum en latin, traduit un mot grec, mysterion, qui est mystère. Donc on pourrait dire qu'en vérité, les deux mots veulent dire quelque chose d'une réalité qui est celle des rites, des gestes, des paroles que l'on pose au moment essentiel, important de la vie chrétienne. Mais je voudrais juste vous rendre attentif à ça, c'est que le mot sacrement, même si nous le concevons tel que je le dis, a reçu dans le monde latin, notamment en Occident, une vision parfois trop légale, trop légaliste. Pourquoi ? Le mot lui-même vient du mot latin qui veut dire l'allégeance que l'on fait au général dans l'armée, donc vous voyez, il y a quelque chose d'une promesse que l'on fait. C'est comme ça que Tertullien, le premier un des écrivains chrétiens, va employer le mot. Avec cette idée d'engagement, donc du coup, ce qui n'est pas faux dans le sacrement, et on s'engage à quelque chose. L'idée d'engagement n'est pas que légale, il y a aussi la liberté de s'engager à quelqu'un, d'adhérer à quelqu'un, vous voyez. Et donc, nous verrons avec tous les sacrements qu'en vérité le mot a pris en Occident, j'ai dit en Occident, une vision plutôt légaliste, plutôt, voilà, ferme, rétréci. Alors que le mot mystère vient, d'abord, je vous le disais la dernière fois, des pratiques religieuses, on pourrait dire, ou de sectes dans la Grèce antique. Mais le christianisme, grâce à Paul, l'appréhende dans le sens de ce que Dieu avait prévu pour l'humanité. Le mystère, voilà, ce qu'il avait prévu d'accomplir pour l'humanité. Et Paul dit, c'était caché, comme disent les Grecs. Mais c'est révélé maintenant, grâce au Christ, vous voyez. Il y a une sorte de note positive par rapport au mot. Et donc, le mot mystère employé par les pères, les écrivains grecs des premiers siècles du christianisme, de manière très multiple. Un mystère peut être, bien sûr, le baptême, peut être l'Eucharistie. Mais c'est aussi la mer rouge, le récit de la mer rouge, ou le moment de la Genèse, ou encore, justement, pour certains, ça peut être d'autres moments de la Bible. C'est-à-dire, la Bible, disent les pères, sont pleins de mystères. Et le mystère dit toujours la révélation que Dieu a vis-à-vis de sa créature. Vous voyez ? Il se révèle de quelque manière. Alors, je vous avais cité rapidement la phrase la fois dernière de Léon le Grand, qui n'est pas un grec, mais qui est un latin, donc qui a déjà reçu le mot sacramentum, mais il a cette idée-là, derrière le mot, il emploie le mot sacramentum, mais il a l'idée de mystère, parce qu'il dit, je vous le répète, il dit, tous les moments de la vie du Christ, tous les mystères, dit-il, les mystères de la vie du Christ sont passés dans les sacrements. Les sacrements nous font revivre ce que le Christ a apporté, c'est-à-dire le salut, la rencontre, le dialogue, vous voyez. Donc ils nous permettent, parce que nous le comprenons désormais, parce que Christ n'est plus là. Il n'y a pas de présence physique du Christ. Et donc, la réflexion est vraiment celle-là. Puisque le Christ n'est plus là physiquement, nous, grâce à notre corps, physiquement, nous participons à un mystère qui vient de lui, au sacrement, au geste de salut qui vient de lui, par les sacrements, qui nous touche par l'eau, qui nous touche par l'huile, qui nous touche par le pain, qui nous touche par le vin, qui nous touche par un geste de bénédiction, qui nous touche par une promesse d'amour, vous voyez, tout ça, ce sont les sacrements. Je ne sais pas si je me suis un peu étalée, mais est-ce que c'est un peu plus clair ?
Merci.
Oui.
Vous avez dit aussi que l'homme était un sacrement.
Oui.
Alors, si ce mot sacrement a un sens aussi
large,
comment on fait pour...
Voilà. Pour la question que vous posez est une question éminemment théologique. Si tout est sacrement, si tout est sacramentel, plutôt, employons l'adjectif. Si tout est sacramentel, qu'est-ce que c'est le sacrement? Alors là, je pense que la réflexion des théologiens du Moyen-Âge vient à notre rencontre. Et notamment quand ils disent, bien sûr, tout est sacramentel, sinon Dieu ne serait pas présent. Vous voyez, je sors, quelqu'un disait, il fait froid, mais il y a un beau ciel. Voilà un sacrement de Dieu. Un beau ciel. C'est-à-dire... Ça me fait vivre. Hein. Où je vous rencontre, je suis content de vous voir, c'est un sacrement. C'est une dimension sacramentelle. Mais alors, si tout est d'ordre sacramentel, qu'est-ce que c'est vraiment le sacrement? Eh bien, les théologiens du Moyen-Âge disent que ce sont vraiment des moments particuliers, fondamentaux, on pourrait dire spéciaux, de la vie d'un homme et d'une femme qui nous met à proprement parler. En relation avec Dieu grâce à l'Église, hein, par la médiation de l'Église, c'était des gestes qui nous disent « tu es sauvé, ne crains pas, tu es promis à la mort, mais tu es sauvé, le baptême t'apporte la vie, tu ressusciteras avec le Christ. » Ou bien, je m'unis à un homme, à une femme, dans le mariage, je te le promets, votre relation sera féconde, elle apportera la vie. Même au-delà de la mort. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des paroles qui nous donnent le salut, qui nous font vivre. Je pourrais continuer pour n'importe quel sacrement, vous voyez. Si je vous rencontre, je ne vous dis pas, je suis heureux de vous retrouver, je vais vous sauver. Ce serait assez faux, parce que ce n'est pas possible. Mais c'est vrai que je suis très content de vous voir, ça fait partie de ce salut. Et la relation avec quelqu'un, le dialogue que j'ai avec quelqu'un, la rencontre que je peux... C'est de l'ordre, il participe à ce salut, mais n'apporte pas le salut. Ce n'est pas parce que nous nous voyons que nous allons être sauvés, mais nous nous rencontrons parce que nous avons le désir d'être sauvés, de nous rencontrer. Et cette rencontre dit, un peu par effraction, ce salut qui nous est promis. C'est une parole qui nous le dit, vous voyez, un geste. Je ne vais pas vous verser de l'eau pour vous saluer sur le flot. Je vais vous prendre la main, à la limite, vous regarder dans les yeux. C'est d'ordre sacramentel, mais ce n'est pas un sacrement. Est-ce que vous saisissez cela?
Ce sont des petites révélations.
C'est donc, voilà, c'est donc, pour prendre un des mots qui est employé ces jours-ci, notamment par les orthodoxes, c'est une théophanie, une révélation de Dieu. Dieu se manifeste à nous de manière particulière. Mais actuellement, vous pouvez vous demander, mais quand j'étais tout bébé, j'ai rien reçu d'une théophanie, parce qu'on m'a baptisé quand j'étais tout petit. Bien sûr, mais le baptême est ce gage de cette théophanie dans la vie. Dieu se révèle après dans la vie, peut-être même, et surtout, à travers des multiples gestes sacramentels. La personne que je rencontre, le bon maître d'école qui m'a fait grandir, le bon prêtre que je rencontrerai. Vous voyez, parfois Dieu met sur notre route, un peu comme pour la Bible. Vous voyez, la Bible est énorme quand nous lisons l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Pourtant, il y a des gestes particuliers, vous voyez. Pas toute la Bible est à prendre, entre guillemets. Il y a des gestes, quand même, une messe. La rencontre entre l'homme et la femme au Jardin d'Éden est magnifique. La rencontre d'Abraham au chêne de Mamré avec les trois pèlerins, elle est magnifique, vous voyez. Et comme par hasard, si vous y réfléchissez, tous ces moments fondamentaux d'ordre sacramentel ont été repris dans des tableaux par l'art. Ça mériterait, je sais que Bernard Clazen est sensible à ça, mais ça mériterait de travailler les sacrements à travers les tableaux artistiques ou les œuvres musicales. Il y a des, la passion de Saint-Jean est magnifique, il suffirait d'entendre. J'ai eu la chance, grâce à des amis, j'y vais pas normalement, ils m'ont invité à un concert de Handel juste avant Noël, le Christ, le Messie de Handel. J'étais presque aux larmes. C'est impressionnant, on a besoin de participer à une liturgie. Mais c'est pas. Vous voyez comme quoi Dieu peut nous rencontrer à travers. Et il y a des personnes qui ont rencontré Dieu grâce à des œuvres d'art, grâce à rentrer juste dans une église et en se sentant pris par ce Dieu qui nous rencontre. Vous voyez. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair. Cela dit, je reprends, ça reste toujours un peu un mystère. Au sens que. Mais c'est peut-être c'est ça la beauté de notre vie chrétienne. Tout n'est pas exact. Heureusement. Sinon, Dieu ne serait pas Dieu. Dieu ne pourrait pas agir si tout était exact. Voilà, Dieu se révèle à nous, parfois c'est. À peu près exact, ça n'est pas du tout. Je n'avais pas prévu ça dans ma vie. Et pourtant, Dieu est toujours là et il intervient au bon moment, quand nous n'attendons pas. On continue ? Et donc, justement, dans ce jeu de mots, donc nous allons. Vous avez le plan du cours, n'est-ce pas ? On vous a donné le plan du cours. Vous pouvez mettre le pilote automatique tout en sortant un œil parfois. Mais je vais suivre. Oui. J'y ai pensé. J'y ai pensé. Mais merci pour votre diaconie. Mais vous avez tout à fait raison. Et rappelez-moi tout à l'heure d'éteindre et puis de rallumer.
Je veille sur le point rouge.
Voilà, veillez. Donc, vous avez un plan du cours, là, et je vais suivre ce plan, peu à peu, je vous dirai. Donc, je vous dis tout de suite, aujourd'hui, c'était marqué initiation de l'Église, peut-être que les cours vont un peu se tuiler, hein, on n'aura pas parfaitement, justement, fini une partie. Mais puisque nous restons là trois mois, nous pouvons jouer sur les temps. Et donc, dans ce plan, je voudrais juste d'abord, comme je vous l'avais promis ou indiqué, si vous regardez le plan, d'abord, ce premier cours sur les sacrements de l'initiation chrétienne prennent en compte la dimension historique de l'évolution de ces rites. La prochaine fois, nous allons venir avec les rituels et nous allons regarder dans les rituels tels qu'ils sont célébrés aujourd'hui, comment cela est arrivé dans les rituels. Et donc, la première question, effectivement, c'est tout simplement d'où vient le mot initiation ? Comme nous avons vu, d'où vient le mot sacrement ou le mot mystère. Et là, à nouveau, pour le mot initiation, que je vous fais remarquer, est présent dans l'un des rituels catholiques, qui est le rituel de l'initiation chrétienne des adultes. Donc vous voyez, le rituel lui-même a gardé ce mot. Donc si ce mot est là, ça veut dire qu'il est important. Et qu'est-ce qu'il veut dire ce mot ? À nouveau, une fois de plus, et je vous le dirai de plus en plus, les chrétiens n'ont rien inventé. Les chrétiens héritent de ce mot du monde grec, à nouveau. Et le mot initiation, qui n'a pas, comme pour le mot mystère, un correspondant, vient, en vérité, j'ai essayé de vous le montrer. Donc, si le mot muo, le verbe plutôt, muo, je ne dis rien. C'est la racine du verbe, muo, muo.
Et un feutre avec plus foncé.
Plus bleu, oui. On m'avait dit que le bleu n'était pas très clair.
Mais le rouge, c'est encore moins.
Si, c'est mieux.
Oui, c'est mieux.
C'est mieux.
C'est moins pire. C'est moins pire.
C'est un, la racine, c'est un verbe, muo, et ça veut dire murmurer, dire en silence, et parfois même ne pas transmettre, ne pas dire, ne pas le révéler. Et cette terminologie, ce verbe-là, était employé une fois de plus dans le contexte des cultes à mystère dans le monde grec. Qu'est-ce que c'était ces cultes à mystère? C'était des cultes qui étaient liés à une divinité grecque. Ah, c'est souvent des divinités qui étaient liées à des moments de l'année, c'est-à-dire le printemps, l'automne, vous voyez, c'est-à-dire le temps des semences, le temps des récoltes. Hein. Et donc, c'était vécu par des groupes particuliers, de groupes qui se auto-choisissaient, et on recevait une sorte d'initiation hein, à travers des rites que l'on ne pouvait pas révéler aux autres. Donc on recevait une initiation secrète, on pourrait dire. Et donc, effectivement, ce verbe était la manière d'initier. Je initie. Muo. De là, vous le comprenez désormais, vient le mot mystère. Mystère. Mysterion, vous trouvez à nouveau la racine là, n'est-ce pas? Mu, voilà. Et puis, un autre mot qui est très employé aujourd'hui, même dans nos pratiques catholiques, chrétiennes, c'est le mot mystagogia. Mystagogie. Et à nouveau, vous voyez, il y a toujours la racine mu, donc ça, c'est la richesse de la langue grecque. Hein. On peut créer des mots à partir du verbe. Et là, mystagogia, ça veut dire plutôt conduire vers le mystère, faire rentrer vers le mystère. Dû au fait que, assez souvent, pour ces cultes à mystère, il y avait un initiateur, un mystagogue. Quelqu'un qui est initié au mystère. Ça y est. Et alors, naturellement, je recoupe avec ce que nous avons dit par rapport au mot mystère. Le mot passe à un monde chrétien, hein, tel que je vous l'ai dit par Paul, hein, entre autres par Paul, et par d'autres par la suite. Et on reconnaît dans ce vocabulaire la manière de faire rentrer dans le mystère chrétien. Ça y est. Et donc, on donne tout ce vocabulaire va être repris par le christianisme pour parler de la manière dont on initie à la vie chrétienne. Alors, par exemple, les pères diraient, voilà, la catéchèse que je vous donne en vue du baptême, c'est une mystagogie. C'est une initiation au mystère. Naturellement, le mystère chrétien, tel que Paul l'avait pensé. Ce mot va en vérité disparaître. Oui, peut-être, je fais comme je le fais pour le mot sacrement, le pendant latin. Comment on traduit, du coup, ce mot muo ou mystagogie, eh bien, on l'appelle en latin initiatio. Initiation. Vous voyez, quand on du grec, on va traduire vers le latin, on retrouve dans le mot initiation, initiatio, le bon mot. Pourquoi? Parce qu'il dit que ce mot-là, et nous l'avons encore gardé dans notre français, ou dans le mot même en italien, c'est initiazione, c'est pas loin d'initiation, hein. C'est juste un final en italien. L'initiation, ça veut dire le fait de commencer quelque chose, de commencer, mais aussi, si je prends le passif du verbe, être initié, je suis formé pour entrer dans quelque chose. Vous voyez? Et donc, le mot est pris pour les rites du baptême, généralement pour le rite du baptême. Mais, à un certain moment, et je vous dirai pourquoi, et nous le verrons dans le cours, dans le monde latin, c'est-à-dire dans l'Occident, le mot va disparaître. Alors que, en Orient, notamment dans le monde orthodoxe, ce mot va rester. Pourquoi il va disparaître en monde latin? Et ça, c'est une bande-annonce pour le coup. Parce que, en Occident, le temps ou la manière d'initier justement à la vie chrétienne va disparaître pour les adultes. On passe d'une initiation, j'en prends le mot là, destinée à des adultes, et peu à peu, à partir du 6e, 7e siècle, on initie seulement des enfants. Ce qui n'est pas la même chose, vous comprenez, et on vous comprendrait mieux après. Mais retenez cela. La disparition de la manière de faire, de la manière d'initier des adultes, qui comprenaient un temps assez long, qui comprenaient des gestes, des étapes, des moments profondément qui marquaient la vie d'un homme ou d'une femme, vont s'arrêter et on passe pour les enfants et cela se réduit énormément. Et l'enfant n'a plus, ne peut plus, un bébé ne peut pas répondre à ce qu'on lui demande, à ce qu'il ne peut pas suivre les étapes d'une initiation, vous voyez. Alors qu'en Orient, on continue à baptiser, confirmer, eucharistier des enfants. Chez nous en Occident, non. On baptisera, et puis peu à peu, quand il deviendra adulte, on confirmera et on donnera la première communion. Ça, on le verra tout à l'heure. Mais vous voyez pourquoi le mot va disparaître. Mais comme par hasard, je le fais toujours remarquer, le mot va rester, vous savez où? Dans les rituels, dans les livres liturgiques, destinés à l'initiation des moines et des moniales. Et ça peut se comprendre. Pourquoi? Parce que ce sont des adultes qui choisissent de suivre un apprentissage dans un monastère, généralement, même souvent dans un monastère, en vue de la profession monastique. Et donc on trouve encore ce mot seulement dans les rituels qui concernent les moines et les moniales, mais pas pour le baptême et l'Eucharistie. Alors il faut attendre pour le redécouvrir le 16e et le 17e siècle, à monde latin, je dis bien, hein, à monde latin. Pourquoi le 16e et le 17e siècle? C'est l'époque de la Renaissance, du post-humanisme, et pas loin d'ici. Il y a un lieu éminemment important qui est Saint-Germain-des-Prés. Et à Saint-Germain-des-Prés, vous savez, il y avait un monastère bénédictin, d'homoristes. Il y en avait un, par exemple, qui s'appelait Mabillon. Et je disais, Mabillon n'est pas qu'une station de métro. Mabillon est exactement un moine qui est devenu une station de métro. Mais il habitait Saint-Germain-des-Prés. Eh bien, ces moristes-là, à partir du 17e siècle, commencent à traduire tous les textes du grec en latin de l'Antiquité, de Jean Chrysostome, des grands pères de l'Église. Et ils découvrent tout ce vocabulaire. Vous voyez, ah, tiens, dans l'Antiquité, on initiait les chrétiens, on initiait les catéchumènes pour devenir chrétien, et donc le mot va être pris en compte peu à peu par la théologie. D'abord les textes traduits, du grec au latin, mis à disposition des savants, et puis des savants va passer aux théologiens, et des théologiens à la pratique pastorale. Ce qui fait que le mot va être employé pour dire comment on devient chrétien. Même un grand Duchesne, lui, Duchesne, qui était un professeur de la faculté de théologie à Paris, donc ici, là où j'enseigne, un grand historien du culte chrétien, c'est un des premiers qui va employer dans un de ses ouvrages, édité en 1902, je ne m'en rappelle plus, il va éditer une partie de son livre, il intitule « L'initiation chrétienne ». Et alors du coup, c'est un mot qui devient un peu mot technique. Et de là va arriver un jour, dans les rituels qui sont les nôtres. Quand nous pensons initiation, ou initiation chrétienne, vous voyez bien qu'il y a le mot initiation, chrétienne, c'est un adjectif. Donc ça dit quel type d'initiation. Parce que je vous fais remarquer que le mot est aujourd'hui employé par tout le monde. N'est-ce pas? Il y a des initiations. Passons au milieu franc-maçon. C'est un mot tout à fait normal pour eux. Passons aux jeunes qui font des initiations quand ils rentrent à la faculté de médecine ou à l'armée. Autrefois, on faisait ça chez moi maintenant. Il y a des manières de faire rentrer dans une corporation, dans un groupe. D'où pour nous l'importance de le marquer avec son adjectif, l'initiation chrétienne. Et pourquoi le mot initiation a été reçu et retenu par l'Église catholique et la réflexion du monde chrétien, c'est parce qu'il dit bien que l'entrée dans la foi chrétienne, ça ne se fait pas d'un coup. Le mot initiation dit qu'il y a quelque chose qui se fait dans le temps et par étapes. Il y a du temps, c'est étalé dans le temps, par des étapes. Et donc, le mot initiation répond bien à l'idée qu'on devient chrétien peu à peu. Hein? Et je dirais même, nous verrons, quand nous parlerons de rituel, le rituel indique bien que, bien sûr, il y a une initiation qui se termine à un moment donné, on reçoit le baptême. Mais théologiquement et spirituellement, on peut dire que nous sommes encore en état d'initiation. Nous grandissons dans la foi, n'est-ce pas ? Le baptême inaugure ce temps. Voilà. Et donc voilà, une fois que nous sommes mis d'accord sur le mot, on peut regarder ensemble quel est le témoignage de la tradition de l'Église. Parce que je vous fais remarquer, et ce n'est pas difficile à montrer, tout ce que nous célébrons aujourd'hui est de l'ordre d'un geste de tradition. C'est-à-dire, il nous est parvenu, grâce à des hommes et des femmes, avant nous, qui nous ont transmis cela. Et donc, nous reconnaîtrons, et c'est un peu le jeu que je vous propose de faire aujourd'hui, nous reconnaîtrons dans ce que nous allons dire depuis le Nouveau Testament, quelque chose de ce que nous faisons encore aujourd'hui. Et donc, quel est le témoignage du Nouveau Testament ? Et quelles sont les sources du Nouveau Testament? Vous savez que quand on cherche, généralement, ça aussi retenez-le comme une clé de lecture, quand on cherche les premiers gestes chrétiens dans le Nouveau Testament, il ne faut pas aller chez les synoptiques, il faut aller chez Paul. Paul est le premier témoin, c'est celui qui a écrit le plus tôt possible. Les lettres de Paul, vous le savez, vous le faites avec Roseline, des cours sur la Bible, Paul est le premier témoin du vécu chrétien. Et donc, dans les lettres de Paul et de son école, nous avons les premiers enseignements, généralement sous forme d'allusion au sujet de l'expérience baptismale des communautés auxquelles Paul s'adresse. Et dans la première lettre aux Corinthiens, il rappelle, il face aux divisions et aux factions qui minent l'unité de la communauté. Généralement, Paul écrivait des lettres quand les choses n'allaient pas trop bien, pas tout le temps, mais là c'est le cas. Les choses n'allaient pas trop bien dans la communauté et il y avait des divisions. Et là, Paul semble indiquer que effectivement, le baptême était administré au nom de Jésus. Je vous lis le passage pour que vous compreniez ce que Paul voulait dire. C'est dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1, versets 10 à 17. Et Paul dit ceci, je cite, « En effet, mes frères, les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des discordes parmi vous. Je m'explique. Chacun de vous parle ainsi. Moi, j'appartiens à Paul, moi à Apollos, moi à Cephas, moi à Christ. » Et puis Paul dit, « Le Christ est-il divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ?» Vous entendez? Ça veut dire qu'il y avait une pratique. Alors il dit, « Grâce à Dieu, je n'ai baptisé personne. » Ah oui, quand même, j'ai baptisé l'un ou l'autre. Mais ça, c'est intéressant parce que « Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé ?» Cela fait penser que la pratique du baptême était liée à un geste baptismal, j'y reviendrai, qui est accompagné d'une parole au nom de. Baptisé au nom de. Et en effet, un peu plus loin, dans une autre lettre, là, toujours la première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 11, il dit ceci, je le cite, « Voilà ce que vous étiez, du moins quelques-uns, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. » Vous avez entendu les verbes, hein? Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Actuellement, le mot « laver » nous fait penser à de l'eau. Hein? Justifier, c'est la justification qu'on reçoit de ce geste, de lavage, ou de lavement, ou de d'immersion. Hein? Et sanctifier aussi. Le baptême, en gros, je paraphrase la Paul, mais ça veut dire ça, nous rend saints. Nous rend saints. Et donc, sanctifié, probablement, était un synonyme de baptême. Être sanctifié était un synonyme d'être baptisé. Et dans l'épître aux Éphésiens, qui est une épître plutôt issue de l'école de Paul, disent aujourd'hui les exégètes, dans un contexte de morale domestique, notamment des relations entre mari et femme, l'auteur de la lettre va rapprocher par analogie la relation entre l'homme, le mari et la femme à la relation qui existe entre l'Église et le Christ. Et il dit ceci, je cite, « Il a voulu ainsi rendre l'Église sainte en la purifiant avec l'eau qui lave, avec l'eau qui lave, et cela par la parole. » Donc vous entendez tout ce monde-là. On parle d'eau, on parle du fait de laver, on parle du fait d'accompagner ce geste par la parole, on parle du fait d'accompagner ce geste par une parole qui est au nom de, je reviendrai, Jésus, ou d'autres noms dont je parlerai. Donc, Paul, évidemment, ne dit pas « voilà comment ça marche en christianisme, on est baptisé », mais il va quand même nous rappeler qu'il y a un geste fondamental qui fait devenir chrétien, qui est ce geste d'eau, apparemment, qui sanctifie et qui relie au Christ lui-même. Je passe un peu plus proche de nous, pour ainsi dire, ce sont les actes des apôtres. Quelques années après Paul, le livre des Actes des Apôtres, eux par contre, puisque c'est un livre qui se veut entre guillemets historique, selon Luc, Il veut faire le récit de la naissance du christianisme, comment les communautés sont devenues chrétiennes, de la mission de l'Église. Eh bien, les Actes rapportent quelques baptêmes. Presque tous célébraient au nom de Jésus. Là, nous avons vraiment l'appellation, au nom de Jésus. On parle même du baptême de Paul, mais malheureusement, il n'y a pas de détails du baptême de Paul. Mais nous voyons bien que Paul tombe sur la route de Damas, face à une vision probablement, et on dit qu'il est accueilli par Ananie, quelqu'un qui l'initie à la foi chrétienne. On dit dans les Actes qu'il devient aveugle et qu'après le baptême, il voit la vue, il a la vue. Ça, c'est magnifiquement dit, c'est-à-dire cette maladie ou cet accident qu'il a pu voir est quelque part guéri par le baptême, n'est-ce pas? Mais on parle aussi de groupes de personnes pour le baptême. Et donc, le baptême, l'immersion baptismale, est souvent mentionné à la suite d'un rite d'imposition des mains. On a toujours ces deux gestes qui vont ensemble. Parfois, il y a l'immersion et puis on impose les mains. Parfois, il y a l'imposition des mains et on a l'immersion baptismale. Mais c'est un récit que nous allons travailler ensemble qui va peut-être nous décrire davantage quel est effectivement cela. Mais je voudrais juste vous indiquer une chose. Un autre passage très beau dans les Actes des Apôtres qui peut nous éclaircir par rapport à ces pratiques des premiers chrétiens. Vous vous rappelez le passage de la Pentecôte dans les Actes des Apôtres. Les apôtres, après l'ascension du Christ, disent les Actes, vont se réunir dans la chambre haute, probablement le Cénacle, hein, le lieu même où a eu lieu l'Eucharistie, probablement. Et on dit qu'ils attendent la promesse que le Christ leur avait faite, c'est-à-dire de la venue de l'Esprit. L'Esprit vient et les Actes disent de manière très étonnante, ils sortent en Jérusalem et ils se mettent à prêcher. Et les Actes disent, voilà un des premiers miracles, que tout le monde les entend parler dans la langue différente qui peut exister à Jérusalem. C'est tellement vrai qu'on dit, ah, ils sont sous, ils ont bu quelque chose. Ils ont fait la fête en gros, hein. Ils étaient dans le Sénat pour faire la fête, pas pour attendre l'Esprit. Mais les Actes disent qu'à ce moment-là, Pierre fait une prédication, une longue prédication. Si vous prenez le deuxième chapitre des Actes, une longue prédication, et cette prédication se termine avec la bouche bée des auditeurs, disent les Actes. C'est tellement vrai que les Actes disent que les auditeurs demandent à Pierre. Mais si c'est ainsi, que devons-nous faire? La question, c'est intéressant. Le désir, du coup. Que devons-nous faire? Et Pierre répond ceci, retenez ceci. Pierre dit, convertissez-vous, conversion, faites-vous baptiser, baptême. Alors il ajoute, pour la rémission des péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit. Alors, ce qui est intéressant, il y a quelque chose qui précède. Je viens de le dire. Tout cela, Pierre le dit parce que d'abord les gens lui demandent « Que devons-nous faire ?» Mais Paul avait auparavant prêché. Donc il avait annoncé, il y avait le kérigme. Le Christ est mort pour vos péchés, en gros, hein, et il est ressuscité. C'est pour cela qu'ils disent, même Pierre a le culot de dire, c'est vous qui l'avez conduit à la mort. qu'est-ce que nous devons faire? Elle dit, voilà, convertissez-vous, faites-vous baptiser pour la rémission des péchés et vous recevrez le don de l'Esprit. Nous avons là, en tout petit, ce que va devenir le baptême chrétien. Nous reconnaissons naturellement le geste d'eau, là, et nous reconnaissons la finalité de ce geste, de cette immersion dans l'eau. C'est un geste, c'est pas magique. Pourquoi il n'est pas magique? Parce qu'il faut d'abord la liberté de la conversion. Vous voyez, le geste d'eau ne vient que sceller un désir intérieur, une mise en condition personnelle, la liberté d'adhérer au Christ. Et donc, voilà, nous avons là un tout petit ce que va devenir le baptême chrétien. Mais du coup, nous avons quelques structures, j'appelle ça les structures. Nous pouvons reconnaître, je dis très rapidement, hein, toujours dans le Nouveau Testament, nous voyons que nous pouvons deviner, je dirais, mais pas dit, voilà, quel est l'enseignement avant le baptême, quel est l'enseignement après le baptême. Mais en vérité, nous avons des passages du Nouveau Testament, notamment dans les lettres de Paul, dans les actes des apôtres, où on a vraiment l'impression que certains textes sont faits pour justement faire cet enseignement, ou cette catéchèse, cette annonce avant le baptême. Je vous en cite une que vous connaissez sûrement par cœur, parce qu'en principe vous allez à la messe la nuit de Pâques, mais si vous n'y allez pas, je vais vous le rappeler. Et effectivement, c'est la lettre aux Romains au chapitre 6 que nous lisons la nuit de Pâques, que nous entendons la nuit de Pâques, quand il dit « Vous tous qui avez été baptisés dans Christ, vous avez revêtu le Christ. » Donc, tout ça, on pense que ça pourrait être un passage qui faisait partie d'une catéchèse, vous voyez, après le baptême. Et donc, il pouvait y avoir, effectivement, déjà à cette époque-là, un enseignement à la manière dont Pierre avait fait à Jérusalem pour enseigner ceux qui demandaient à devenir chrétiens. Et donc, on leur donnait un petit enseignement, un enseignement rapide, je dirais, hein, et un enseignement après le baptême qui permettait d'être, effectivement, de rentrer dans ce que faisait, dans ce qui permettait de recevoir le baptême. Il n'y a pas de conversion, généralement, sans annonce de la foi. On y reviendra par rapport au processus d'initiation catéchuménale encore aujourd'hui. Même quelqu'un qui vient, il y a probablement l'un ou l'autre qui travaille et qui accompagne des catéchumènes, savent mieux que moi. Parce que je n'ai jamais accompagné de catéchumènes. Mais il est évident que souvent ça peut arriver, ça je le sais par le travail que je fais, qu'un catéchumène arrive et dit « J'étais à une église, j'ai eu envie de devenir chrétien. » Alors actuellement on se dit « Mais il n'a rien entendu, il n'a rien vu. » Et il a vu souvent, il a vu une communauté. Ou bien une personne m'a fait tellement du bien que je veux devenir chrétien. Et on se demande « Mais qui lui provoque ça ?» Naturellement c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui précède. Alors après, ça ne suffit pas de dire « je veux devenir chrétien ». Il faut leur enseigner tout ce qui concerne le Christ. Ça vient de là, vous voyez. Donc même à cette époque-là, il y avait probablement un enseignement qui se faisait avant le baptême, un enseignement qui se faisait après le baptême. Nous reconnaissons aussi des ministres, c'est-à-dire, on y reviendra, à la suite du baptême de Jean-Baptiste, les premiers chrétiens décident, à l'inverse de ce que font les juifs, de faire ce geste d'eau par la médiation de quelqu'un. Je vais m'expliquer. Quand Pierre dit « faites-vous baptiser », il emploie un mot, baptême, baptizo en grec, c'est le mot que nous avons dans les actes des apôtres, qui veut dire immerger, se faire immerger, plonger dans l'eau. Plonger dans l'eau, vous voyez, baptême veut dire ça, plonger dans l'eau. Mais le mot plonger dans l'eau vient d'où, là nouveau, vient des gestes juifs Le monde juif était plein de ces gestes d'immersion, qui étaient plutôt des gestes de purification du corps. Vous savez, c'était pas tant de constater cela quand on a fait les fouilles à Qumran. Vous voyez que c'est Qumran, c'est une partie d'Israël dans laquelle il y avait une secte juive, un groupe juif, qui attendait vraiment très proche des chrétiens, parce qu'ils attendaient, ils attendaient le Messie. Ils vivaient en communauté et ils avaient toute une initiation pour entrer dans la communauté. Et on a découvert dans les fouilles des centaines de piscines de purification. Parce que ça faisait partie de leur pratique. Et donc les Juifs pratiquaient le geste de l'immersion. Mais à la différence des chrétiens par la suite, ils le faisaient personnellement. Je dois me purifier, je vais à une piscine de purification et je me purifie, je m'immerge moi-même. Mais à partir de Jean-Baptiste, d'où vient le baptême chrétien, c'est quelqu'un qui m'immerge. Ce n'est plus moi qui m'immerge moi-même, mais c'est quelqu'un qui m'immerge. Je vous ferai remarquer, nous venons de le fêter, le Christ lui-même va se faire baptisé par Jean-Baptiste. On pourrait dire que le Christ est le premier baptisé, est le premier des baptisés, même s'il n'avait pas à se faire baptiser. Et donc, effectivement, les premiers chrétiens connaîtront tout le temps des ministres. Tout le texte de Paul que nous avons lu en début du cours, je n'ai baptisé personne. Je n'ai pas été ministre de personne, vous voyez. Mais ça veut dire que d'autres l'étaient. La première caractéristique du baptême chrétien, il y a un ministre qui baptise un autre, qui merge un autre. Et puis, des gestes rituels, on les a évoqués tout à l'heure. Immersion, c'est-à-dire on conduit quelqu'un à l'eau et on l'immerge. Parfois, on impose les mains avant ou on impose les mains après cette immersion. Et on accompagne cette immersion d'une parole qui est celle que nous venons de voir chez Paul au nom de Jésus. Nous avons deux formules, je vous fais remarquer, dans ce premier texte de chrétien. Au nom de Jésus et puis celle que nous connaissons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi, à cette époque, on constate la coexistence de ces deux formules ? Au nom de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est celle-là qui a été retenue par la suite. Mais rappelons-nous que peut-être la toute première formule baptismale, la toute première parole baptismale était « Au nom de Jésus ». Elle venait d'où ? Elle venait des manières juives de se rapporter à ces gestes. Dire à quelqu'un « tu es baptisé au nom de Jésus », ça veut dire « tu appartiens à Jésus ». Tu adhères à ce que Jésus a fait. Tu suis la rabbi Jésus. J'appartiens à lui. Et on pense que cette formule vient des communautés d'origine juive ou judéo-chrétienne. Je vous ferai remarquer qu'avant d'être chrétien, nous étions juifs. Par là, je veux dire que le christianisme est né à Jérusalem, n'est-ce pas ? Et donc, première formule, c'est communauté juive qui adhérait et qui ne pensait pas que le judaïsme aurait disparu. Ça y est ? Qui se croyait fermement à la fois chrétien et juif. Mais quand l'évangile va être annoncé aux gentils, comme on dit, aux grecs, ceux qui n'ont jamais été juifs, eh bien, probablement la réflexion amène à penser à un Dieu Père, Fils, Esprit Saint, et d'où notamment Antioche, milieu hautement hellénisant, grec, eh bien, cette formule est probablement employée dans ces milieux grecs. et va être retenue comme la formule baptismale chrétienne. Vous voyez bien que, au fur et à mesure que le temps passe, les juifs chrétiens n'ont plus bonne presse. Pourquoi ? Parce que les chrétiens s'éloignent de plus en plus du monde juif et ils prennent une autonomie en tant que telle. Ça, on le voit dans l'histoire. Aussi parce que le judaïsme, le monde juif est écrasé par la destruction du temple à Jérusalem. Donc, du coup, et donc c'est la formule que nous avons reçue. Donc je reviens au geste, plonger dans l'eau, parfois en position des mains avant ou après, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que là, jusqu'où j'ai parlé, c'est assez clair? C'est bon? Vous accrochez? Alors, nous allons prendre un exemple avant la pause, et puis nous verrons le reste, qui est une sorte de modèle, qui nous fait comprendre un peu comment était vécu le baptême par les premières générations chrétiennes. Ce sont les actes des apôtres, c'est le dossier de texte que vous avez à côté. Ce sont les actes 8, 26, 30. On va lire le texte et on va retrouver les structures fondamentales du baptême. Je vais vous chercher le texte. Moi, je suis plus vivant. Tout le monde a le Christ sous les yeux. Ce texte est magnifique. Et je vous propose, je vous donnerai une clé de lecture tout à l'heure à la fin, et vous comprendrez encore mieux. Mais lisons ce texte. Le texte dit, l'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, « Pars, va-t'en à l'heure de midi sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza et les déserts. » Je commente toujours cette partie, « Mission impossible. » Mission impossible. On demande à l'apôtre... Oui, là c'est le ministre, de fait quelque chose qui était impossible. Je vous fais remarquer pourquoi c'était impossible. C'est parce qu'il dit, l'heure de midi, c'est le cagnard impossible dans ces lieux-là. La route qui va de Jérusalem à Gaza, c'est une route pleine de brigands, dans laquelle on tue tout ce qui passe. Et puis, en plus, elle est déserte. Donc si tu cries, personne ne va bien te sauver. Donc c'est vraiment... Naturellement, on comprend que l'ange du Seigneur est la voix de Dieu, et l'appel, la vocation, l'appel de Dieu à faire quelque chose. Nous verrons que probablement, c'est l'Esprit. Je vous dirai pourquoi et vous le comprendrez. Et donc, le texte conduit comme si rien n'était, aucune réaction de la part de Philippe. Il partit donc, le donc est à cette heure-là, il partit donc, c'était normal. Et s'il en dit, justement, alors là aussi, justement, il a dit qu'elle était déserte. Justement, puisqu'elle était déserte, il y a quelqu'un qui passe. Un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de tous ses trésors, qui était venu en pèlerinage à Jérusalem, sans retourner. Vous voyez la redondance de cela. C'est pas n'importe qui. C'est quand même, bon, éthiopien, eunuque, ça veut dire qu'il était vraiment réservé à la cour de la reine d'Éthiopie, haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, ça veut dire qu'il vient de loin, et qui, donc, vient pèlerinage. Ça veut dire que c'est un juif, un pieux juif. Donc, il vient de notre région, mais il vient à Jérusalem pour un pèlerinage. Et il dit, il était assis sur son char, dans toute son ampleur et possible et richesse, et il dit, il lisait le prophète Isaïe. Alors là aussi, c'est le contexte des actes. Il veut mettre en scène quelque chose qu'il veut nous communiquer. Il nous s'adresse à nous. Hein. Et donc là, à nouveau, on avait dit l'ange du Seigneur, et là on dit l'Esprit, dit à Philippe. Donc du coup, on a tendance à dire, c'est vraiment l'Esprit qui lui parle. Hein. L'Esprit dit à Philippe, avance et il rattrape ce char. Donc pour être apôtre, il faut être athlétique. Philippe est couru, il a entendu que l'eunuque lisait. Vous savez pourquoi il a entendu ? Parce qu'il a entendu, parce que il ne faut pas oublier que quand on lisait à cette époque, encore jusqu'au 4e, 5e siècle, on lisait à haute voix. On ne lisait pas pour soi-même. Nous, dans le métro, si on se mettait à lire à haute voix, on dit, attention, Sainte-Marie tout de suite. Mais, on lisait à haute voix, c'était une manière de faire. Donc il entend qu'il lisait. Et il lui demande, et c'est là que le dialogue est assez important, hein, comprends-tu ce que tu lis? Parce qu'il ne suffit pas de lire, en gros, nous pourrions paraphraser. Il ne suffit pas de lire. Est-ce que tu comprends ce que tu lis? Et l'autre à répondre, la mise en relation d'une fragilité, n'est-ce pas? Comment le pourrais-je, dit-il, si personne ne me guide? C'est magnifique ce paradoxe, parce qu'il est assis sur son char, il est en train de le conduire tranquillement, mais il dit, je ne suis pas guidé. Être guidé, c'est ailleurs que le fait d'être conduit dans un char. Et il invita Philippe à monter et s'asseoir près de lui. J'ouvre une parenthèse, cette approche est l'approche idéale pour tous ceux qui veulent rencontrer les gens. On ne parle pas de « est-ce que tu crois au Christ ?» Mais qu'est-ce que tu es en train de lire? C'est une question tout à fait banale. Et là, vraiment, on parle des choses tout à fait pratiques, concrètes, n'est-ce pas? Et après, il cite le passage de lecture qui a été le suivant. Vous avez le passage, je ne vais pas le lire, mais je vous rappelle simplement que ce passage, nous l'entendons tous les vendredis saints, chaque année. C'est le passage du serviteur souffrant qu'on lit le vendredi saint. Ça veut dire qu'il est vraiment au cœur de l'annonce de la foi chrétienne. Depuis Philippe, et quand nous l'entendons le vendredi, il faudrait penser que nous avons encore ça, que nous entendons encore ça de manière tout à fait nouvelle. Et donc, curiosité, s'adressant à Philippe, le Luc lui dit, je t'en prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même, de quelqu'un d'autre? C'est une très belle demande. Hein? Est-ce qu'il parle de lui ou est-ce qu'il parle de quelqu'un d'autre? Et la question, vous voyez, lui permet à Philippe d'annoncer le Christ. Philippe prit alors la parole et partant de ce texte de l'Écriture, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Probablement, cette personne qui dit « Je suis comme l'agneau muet qu'on a tendu, cet agneau est le Christ qu'on a mis à croire, mais qui est ressuscité. » Nous n'avons pas cette prédication, mais on l'imagine. Par contre, nous avons là un des principes de l'enseignement des premiers chrétiens. Je rappelle toujours de manière parfois un peu banale, rappelons-nous que les chrétiens n'avaient pas de Nouveau Testament. Philippe n'avait pas le Nouveau Testament. Là, tiens, lis le texte de Paul. Et donc, ce point il s'appuie sur l'Ancien Testament. Et donc, une des techniques, des manières de lire, à la manière juive en vérité, des premiers chrétiens, c'était de s'appuyer sur l'Ancien Testament et d'y voir les anticipations qui concernaient le Christ. Vous voyez, c'est ce qu'il fait, Philippe. Vous savez qu'on passe, certains exégètes pensent que c'est même comme ça que sont nés les évangiles. C'est-à-dire, les premiers chrétiens se réunissent pour lire l'Ancien Testament, c'est ce qu'ils avaient, et ils découvrent peu à peu que le psaume tel fait référence au Christ, et c'est de là que naît le Nouveau Testament. C'est en dialoguant dans les communautés chrétiennes, après il y a quelqu'un qui prend la plume et il écrit l'évangile, mais ça vient du dialogue pour découvrir d'où venait l'annonce du Christ. Et c'est ce que fait Philippe, alors. C'est exactement. C'est cette première partie, vous le voyez. Il annonce, donc, toute la bonne nouvelle de Jésus. C'est ce qu'avait fait Pierre le jour de la Pentecôte. N'est-ce pas? C'était toujours au moment de l'annonce. Le texte continue. Chemin faisant, ils arrivèrent à un point d'eau. J'aime bien cette expression chemin faisant, parce que dans ce texte, qui est un texte qui va au-delà de la relation historique, est-ce que c'est le chemin du char ou c'est le chemin dans le cœur de l'Éthiopien? Vous voyez? C'est un nom, ça provoquait quelque chose. Donc, chemin faisant, ils arrivent à un point d'eau, l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Je saute le crochet, là, et je continue, après je vous dirai pourquoi du crochet. Il fit arrêter le char, ils descendirent tous deux de l'eau, Philippe avec l'eunuque, et il le baptisa. Mais, comme je vous dis en note, il y a une variante qui est citée dans certains manuscrits du Nouveau Testament et qui ajoute ceci. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, c'est permis. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Là, nous avons une sorte de confession de foi, vous le voyez bien. Donc, cette partie-là n'est pas importante, parce que si nous essayons de décortiquer, de structurer ce qui fait le baptême chrétien, nous avons retrouvé l'annonce, hein, lui annonçant la bonne nouvelle, la plongée dans l'eau, mais cette plongée dans l'eau se fait avec une profession de foi, une confession de foi. Je crois au Christ. Le dire je crois, c'est dire j'adhère. C'est pas un acte magique. C'est pas parce que tu me plonges dans l'eau que tout fonctionne. Mais c'est parce que je veux, moi, adhérer au Christ et adhérer au Christ. Et donc, il le baptisa, et le texte finit de manière quasi comme un fioretti de Saint François. Mais quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, et il poursuivit son chemin tout joyeux. Vous voyez, c'est assez intéressant. Il ne dit pas qu'il a reçu l'Esprit. Mais l'idée de la joie fait bien penser qu'il a reçu l'Esprit. Vous voyez ? C'est Paul qui dit quels sont les fruits de l'Esprit, la joie, la maîtrise de soi, la connaissance. Voilà. Donc, la joie dit que l'Esprit était le don qui était reçu par les Éthiopiens. Alors, je voulais vous faire prendre conscience d'une chose qui me semble très, très intéressante. Ce soir, ou dans autre jour, quand vous voulez, mettez ce texte à côté des disciples d'Emmaüs. Vous avez en fait les récits des disciples, c'est Luc, c'est le même auteur. Hein. Et dans les disciples d'Emmaüs, on a la même chose. On est en chemin, arrive quelqu'un, on s'arrête, là c'est l'Eucharistie, c'est la fraction du pain, et le phénomène disparaît. Et là, c'est pareil, vous l'avez vu, un chemin, quelqu'un arrive, et il disparaît, et l'Esprit reste. C'est ce que j'appelle un diptyque eucharistique et baptismal de Luc, que nous avons de manière très intéressante. Donc, vous le voyez bien qu'on retrouve, et puis on fera une pause, on retrouve en gros la même structure, enseignement. Il enseigne à tous ceux qui concernent la bonne nouvelle de Jésus. Il y a la demande de l'Éthiopien, mais qui est-ce celui qui hein? Et puis le baptême, la plongée dans l'eau et le don de l'Esprit. Avec, on pourrait ajouter là, la confession de foi qu'on a vue dans l'accrochet. Hein? Je crois que le Christ est le Fils de Dieu, que nous verrons se développer par la suite. Alors je vous propose 5 minutes de pause. Attention à l'esprit qui tourne autour d'un écran. Il faut qu'on retrouve. Merci. Donc nous allons continuer à voir des textes chrétiens. Je vais faire ce que, que les archéologues appellent des carottages. On ne va pas prendre tous les textes du christianisme, mais on va chercher dans certaines parties de siècle, on va faire un carottage et voir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on retrouve. Hein. Et là, le deuxième siècle est particulièrement intéressant parce que c'est l'époque après le Nouveau Testament. Là, nous étions au Nouveau Testament, on dirait, bon, qu'est-ce qui se passe 100 ans après, 150 ans après, 200 ans après, est-ce que ça continue à être comme ça ou comment? Et puis nous irons au 4e, 5e siècle, 4e siècle. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un autre moment très important de mise en place des rites du baptême en christianisme. Pourquoi nous nous arrêtons au 5e siècle? Tout simplement parce que nous avons au 5e siècle une structuration qui structure encore nos rites d'initiation aujourd'hui. Donc nous reconnaîtrons dans cette structuration du 5e siècle la manière dont nous célébrons encore aujourd'hui les sacrements, vous voyez, de l'initiation. En sachant qu'entre le 5e et nous aujourd'hui, il y a des choses qui se sont passées que nous lirons très rapidement pour vous montrer comment ces sacrements du baptême, de la confirmation, de l'Eucharistie ont pu se déplacer et se désordonner dans leur ordre au cours de l'histoire entre le 5e siècle et nous aujourd'hui. Mais ça, on le fera en moment donné. Commençons par voir comment la génération après le Nouveau Testament reçoit ces gestes baptismaux que nous avons vus tout à l'heure. Et le premier, je vais faire référence à ce qu'on appelle des écrits de la littérature chrétienne antique. C'est-à-dire, vous savez que ce type de littérature est étudié dans les universités d'État. Donc Justin, le philosophe, c'est un auteur grec qui est pris en compte dans les études de certaines sections, par exemple à la Sorbonne, on étudie Justin, on peut étudier Chrysostome, on peut étudier Ambroise, on peut étudier Cyril de Jérusalem. Donc ce texte, le texte tout à fait de la littérature antique, grecque, Justin est un grec, et c'est un auteur très attachant, Justin. Justin, c'est un adulte, il était philosophe de profession, et donc il ne connaissait pas le christianisme, et il raconte lui-même, dans un autre écrit de ses écrits, il raconte qu'il cherchait la philosophie, il était allé chercher chez tous les philosophes, toutes les écoles philosophiques. Un jour, il rencontre un vieillard qui lui dit, mais tu sais, quand même, il faudrait quelque chose du côté des prophètes, on parle de prophètes. Et il va lire les prophètes, il est pris par le témoignage des prophètes, il rencontre des chrétiens qui lui parlent des prophètes et du Christ, et il adhère au christianisme et se fait baptiser. Et du moment où il se fait baptiser, il part en mission. À l'époque, pour les chrétiens, surtout quelqu'un comme lui, c'était il fallait donner la vie au Christ, il part en mission, il part de l'Orient, il va arriver à Rome, c'est-à-dire, imaginez-vous, en tant que philosophe, il ne va pas partir, il ne reste pas chez lui. Il part à l'Occident, vers Rome, dans la tanière même du Léon, c'est-à-dire au cœur même de l'Empire romain, là où on exécutait les chrétiens. Effectivement, à Rome, il va ouvrir une école de philosophie chrétienne. On le trouve, c'est-à-dire il y a une descente de police, on l'arrête, on le condamne et il meurt martyr, donné au maître. Et donc, toute l'œuvre de Justin, nous n'avons pas beaucoup, nous avons trois écrits, peut-être deux écrits, l'apologie et le dialogue avec Tryphon, c'est-à-dire à la manière philosophique, le dialogue avec un philosophe juif. Et là, l'apologie pour les chrétiens, apologie, ça veut dire prendre la parole en faveur d'eux. Et là, l'apologie, c'est pour les chrétiens. Il a le culot, excuse-moi l'expression, d'écrire cette apologie à l'empereur lui-même. Parce qu'il dit, il faut qu'il sache que nous sommes des bonnes personnes. que les chrétiens ne sont pas, comme on dit, des gens qui ne respectent pas l'État, qui font n'importe quoi. Et donc, il écrit cette apologie. Et dans cette apologie, il rend compte de ce que font les chrétiens. Et c'est comme ça que nous avons la chance, c'est à la suite du premier texte. Et c'est comme ça que nous avons la chance d'avoir un résumé, une allusion de ce que font les chrétiens au baptême. Et regardez, on connaît le texte, c'est page 2, si je ne me trompe pas. De quelle manière, renouvelés par le Christ, nous nous sommes consacrés à Dieu, nous allons vous l'exposer maintenant. Pour ne point paraître, par cette omission, présenter l'exposé en partie défectueux. Donc, il ne suffit pas de vous faire du baratin, je vais vous dire vraiment comment ça se passe. Hein? Tous ceux qui se laissent convaincre et croient à la vérité de nos enseignements et de notre doctrine, et qui assurent être capables d'y conformer leur vie, sont instruits à prier, à demander à Dieu dans le jeûne la rémission de leurs péchés antérieurs, et nous-mêmes, nous prions et nous jeûnons avec eux. Ensuite, ils sont conduits par nous dans un endroit où se trouve l'eau, et selon le mode de régénération dont nous avons même été régénérés, ils sont régénérés à leur tour, car c'est au nom du Dieu, Père, souverain de l'univers, de notre Sauveur Jésus-Christ, de l'Esprit Saint, qu'ils prennent alors un bain dans cette eau. Car le Christ a dit, si vous n'êtes pas régénéré, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous voyez, tout ce petit passage nous montre, nous fait redécouvrir la même structure que nous avons tout à l'heure. On parle bien de doctrine, d'enseignement. Donc ça veut dire que, avant même la demande de devenir chrétienne, il y a une annonce. Donc, doctrine, enseignement. Et puis le texte dit, tous ceux qui se laissent convaincre de cette doctrine, ça veut dire qu'il y a une adhésion à cette doctrine, à cet enseignement, et surtout, regardez, c'est quelque chose qui est très important à cette époque, il ne suffit pas de dire je crois à cette doctrine, mais il faut que je dis que je peux conformer ma vie à cette doctrine. Il faut qu'il y ait une réponse éthique, pratique à cette doctrine. C'est la première phase de l'initiation. Annonce de la doctrine, enseignement, je conforme ma vie. Alors du coup, il dit, alors sont instruits à prier, à demander à Dieu dans le jeûne, la rémission de leurs péchés antérieurs. Là, nous trouvons ce que j'appellerais le pôle, je l'appelle comme ça, après je vais m'expliquer, ascétique, c'est-à-dire le pôle de préparation du corps à la réception du baptême. Je vous fais remarquer que jeûne et prière, ce sont un couple qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Quand il faut rencontrer Dieu, quand il faut faire une bataille, quand Israël doit faire une bataille à quelqu'un d'autre, il se met à jeûner et à prier, en vue de la réussite ou en vue de la rencontre avec Dieu. N'est-ce pas ? Donc jeûne et prière font partie de la préparation qu'on peut dire spirituelle. Ne pensez pas à quelque chose de négatif. Pensez une préparation qui renforce l'esprit. Je vous ouvre une parenthèse, c'est ce que deviendra notre carême. Vous voyez, on a déjà là en germe le carême, mais nous ne sommes pas encore, là on ne parle pas de carême, n'est-ce pas ? C'est cela qui constitue la préparation. Et donc il dit, vous avez remarqué aussi le « nous » du texte, « nous-mêmes nous faisons cela, nous-mêmes nous le conduisons ». Le « nous » est le « nous » de l'Église. Ce n'est pas Justin qui le fait, mais c'est la communauté ecclésiale. C'est important, cette dimension de la communauté ecclésiale, n'est-ce pas ? Et donc, il dit, ensuite, ils sont conduits par nous dans un endroit où se trouve l'eau, et selon le mode de régénération, ils sont eux-mêmes régénérés. Il y a l'idée de, il ne le dit pas, mais il y a l'immersion, probablement. Alors, quand on dit dans un endroit où se trouve de l'eau, c'est assez étonnant. On pourrait penser que c'est comme nous l'avons vu tout à l'heure sur Philippe, il passe sur la route, il voit de l'eau. Là, non. Là, probablement, nous le verrons par la suite, c'est qu'on est dans un lieu stable. Ne pensez pas à une église, absolument pas. Il n'y a pas d'église à cette époque. Il n'y a pas de bâtiment à l'église. Mais pensez plutôt à. Non, à une villa de particuliers, À Rome, par exemple, une villa, un grand bâtiment d'une personne. Vous avez présent les villas romaines. Hein. Il y a l'atrium, il y a le point d'eau, il y a le lieu pour manger, le lieu pour faire la cuisine, le lieu des points d'eau, justement, où on se lave, où les latrines, le jardin derrière. Donc du coup, probablement, on est là dans un endroit d'une maison donnée par des chrétiens, des particuliers, et qui, donc, on va dans l'endroit de la maison où il y a de l'eau, qu'on a réservé là pour le geste d'eau. Et il y a cette expression qui est magnifique, je trouve, je le fais toujours remarquer, et le traducteur, là, il était très très bon, parce qu'il emploie le même mot français pour le même mot grec. Et le mot français, c'est régénération, et le mot grec, c'est anagnesis, c'est-à-dire être régénéré. Hein. Donc, selon le mode de régénération dont nous-mêmes nous avons été régénérés, ils sont régénérés à leur tour. Je dis, là on a vraiment toute une théologie du baptême. C'est-à-dire que le baptême est de l'ordre d'une tradition. Je ne régénère pas moi-même. Quelqu'un l'a fait sur moi, mais ce quelqu'un qui l'a fait sur moi a été lui-même a reçu ce baptême. Et ainsi de suite. Jusqu'au premier chrétien, vous voyez, c'est extraordinaire. C'est un geste qui nous vient de loin, n'est-ce pas? Et naturellement, le mot régénération, nous le trouvons dans l'évangile de Jean. Vous vous rappelez le dialogue entre Jésus et Nicodème? Comment je peux naître de nouveau? Tu dois naître de nouveau. Mais je ne peux pas, je ne peux pas rentrer dans le ventre de ma mère. Mais tu dois être régénéré d'en haut. Il y a le mot, il y a l'évangile de Jean là derrière, on a l'impression que ce soit un des évangiles qui sont employés. Et puis nous retrouvons là, en paraphrase, la parole qui accompagne l'immersion, c'est au nom de Dieu Père, de Jésus-Christ, de l'Esprit-Saint, qu'ils sont régénérés, qu'ils prennent un bain à leur tour, dans cette eau. Et puis, on appuie tout cela, ça suffit, on dirait, mais ça, ça vient de l'Église. Mais non, c'est parce que le Christ a dit. Si vous n'êtes pas régénéré, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On a là le témoignage de l'Écriture. C'est parce que c'est sur la parole du Christ que nous faisons cela. Vous voyez ? Je saute les autres paragraphes qui sont toute une vision anthropologique de l'époque, du pourquoi on est régénéré, comment on est régénéré. Il y a toute une réflexion philosophique. Mais je vous fais remarquer le mot « bain ». C'est là qu'ils prennent alors un bain dans cette eau. Alors on dit, on reste un peu sur sa fin, qu'est-ce que c'est ce bain ? Et c'est voulu là, Justin. Parce que là, il est en train, je vous fais remarquer, en train de parler à l'empereur et au Sénat de Rome. Écrire à l'empereur et au Sénat. Donc s'il va dire, c'est là qu'ils sont baptisés, au sens le mot technique, hein, ils n'auraient rien compris. Quand il dit, ils prennent leur bain, ah tiens, c'est comme on fait dans la ville de Rome. On va là où on prend le bain, dans les lieux qui sont magnifiques en plus, et donc tout un système de bain, et donc il fait penser à ça, c'est une plongée dans l'eau. Mais plus loin, regardez le paragraphe 12, vous allez tout au fond. Justin a toujours eu la tentation de faire la catéchisme à l'empereur quand même, hein, parce qu'il va dire quand même, hein, ce bain est appelé illumination. Ce n'est pas un bain quelconque. Et là, illumination, vous voyez comment il dit, on s'attendrait de dire, tiens, qu'est-ce qu'il va raconter? Ce n'est pas lié au geste rituel, mais c'est lié à l'enseignement. Parce qu'il dit, parce que ceux qui reçoivent cet enseignement ont l'esprit inondé de lumière. C'est-à-dire, ils comprennent. C'est la parole de Philippe, est-ce que tu comprends ce que tu dis? On l'esprit rempli de lumière, inondé de lumière, c'est parce qu'ils connaissent la vérité tout entière, comme dirait Saint Jean, n'est-ce pas? Et là, je vous fais remarquer sur le mot photismos, illumination en grec, qui va devenir un des mots techniques du baptême. Qu'est-ce que c'est le baptême? Une illumination. Là, nous avons la trace aussi du philosophe. Vous voyez, c'est le philosophe qui parle là. Donc, le baptême est une expérience qui passe par le rite, mais qui nous fait comprendre, qui est de l'ordre de la connaissance, n'est-ce pas? Et après, là, je vais vous interroger parce que c'est sympathique ce qu'il dit après. Celui qui est illuminé est lavé au nom de Jésus-Christ qui a été crucifié sous Ponce Pilate et au nom de l'Esprit Saint qui, par la bouche des prophètes, a prédit tout ce qui concerne Jésus. Qu'est-ce que ça vous rappelle, cette phrase ? Le credo. Merci. Vous voyez, ce qui nous permet de dire que le lieu d'origine du credo n'est pas l'Eucharistie. Nous le récitons dans l'Eucharistie aujourd'hui. Mais le lieu d'origine, de formation du credo est le baptême. C'est parce qu'il fallait confesser le Christ au moment du baptême. D'où le crochet qu'on avait dans les actes. Hein. Oui, je crois au Christ, le Fils de Dieu. Mais du coup, le credo prend forme à partir de cet processus d'initiation. Vous voyez ? Et après, comme par hasard, du moment où il va disparaître du baptême, parce qu'il n'y aura plus de baptême d'adultes qui pourront répondre oui, je crois, va passer l'Eucharistie. Mais alors, j'invite toujours à moi-même et à vous, quand nous récitons le credo le dimanche, pensons à notre baptême. Ce n'est pas un credo, je crois, c'est parce que j'ai été baptisé. Vous voyez ? L'Eucharistie est lieu, nous y reviendrons, est la source de la mémoire baptismale. Et donc le credo, nous le trouvons là. Mais ce n'est pas fini, regardez page 3. Quant à nous, il continue, hein, après avoir ainsi conduit au banc celui qui a embrassé la foi et a marqué son assentiment à notre doctrine, nous le menons chez ceux que nous appelons frères au lieu où ils sont assemblés. Qu'est-ce que cette phrase nous fait penser ? Ça nous fait penser, un, que probablement la communauté chrétienne n'était pas présente au moment de la plongée d'eau. Ils étaient dans un autre lieu, pensez-nous à la villa romaine, par exemple au triclinium, c'est-à-dire au lieu où on mangeait, étendu sur des divans, hein, et ils étaient là pour l'Eucharistie, parce qu'après, il y a tout le résumé de l'Eucharistie. Nous y reviendrons, parce que quand on parle de l'Eucharistie, on reprendra ce texte. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que nous retrouvons désormais, chose qu'on n'avait pas vue dans le Nouveau Testament, l'importance du baptême, et donc de la plongée d'eau, liée à l'Eucharistie. Ce sont les deux gestes fondamentaux de l'initiation à cette époque. Alors, là nouveau, je joue avec vous. Quel est le grand rite absent là ?
Confirmation.
La confirmation. On ne parle pas d'onction, nulle part, ni dans le Nouveau Testament, ni ici. Hein. Vous voyez pourquoi ? Parce que nous sommes encore dans une théologie qui dit c'est le baptême qui procure l'esprit. N'est-ce pas ? Et donc, pas besoin de le signifier avec un geste. Quand je dis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, j'ai tout dit et tu reçois l'Esprit. N'est-ce pas ? Et donc, les deux sont importants à cette époque-là. Et regardez, toujours page 3, au l'autre texte, 1.66.1, le texte termine ainsi. Or, cette nourriture, à nouveau, comme il avait fait pour le baptême, il avait dit c'est un bain, puis il dit c'est l'illumination. Et là, il dit cette nourriture, sachez-nous le nom d'Eucharistie, et il n'est pas permis, et il n'est permis à personne d'y prendre part s'il ne croit à la vérité de notre doctrine, s'il n'a reçu le bain pour la rémission des péchés et en vue de la régénération, s'il ne vit selon les préceptes donnés par le Christ. Vous voyez, il y a une sorte de. On ne peut pas accéder à l'Eucharistie, mais ça depuis, je dirais toujours là du coup, on peut vraiment le dire, on ne peut pas participer à l'Eucharistie tant qu'on n'a pas été baptisé. Alors là, nous avons vraiment une indication de la manière toute simple. Et encore, vous l'avez bien vu que on a beaucoup, on a assez évolué depuis le Nouveau Testament. On voit bien que les éléments sont tous là, mais par exemple, dans le Nouveau Testament, on n'avait pas vu la partie donnée à la préparation ascétique, le jeûne et la prière interviennent ici. L'enseignement, là, on a l'impression qu'il est vraiment structuré, qu'il a une dimension très structurée, et qu'il y a une prise en compte du comportement moral, éthique, moral ne passait pas au moralisme, mais à un comportement chrétien qu'il faut vivre dans la vie. Quand nous passons à un autre texte qu'on appelle la tradition apostolique. Alors, la tradition apostolique, ça s'appelle comme ça, mais c'est un titre, qu'on pourrait dire, donné à un texte. Et ce texte fait partie, dans la littérature chrétienne ancienne, à ce qu'on appelle des collections canonico-liturgiques. Collection canonique, je vais m'expliquer. Collection canonico-liturgique. C'est-à-dire que nous sommes là dans un texte qui rapporte des usages qui vont entre le 3e et le 4e siècle, vous voyez, et le 5e siècle. 3e et 5e siècle. Pensez toujours, un peu pour vous faire comprendre, c'est un texte, je fais comme si c'était un livre, hein, la page d'un livre. J'ai bien dit une collection. Donc ça veut dire qu'on y collecte différents usages, différents thèmes, surtout usages, d'une église donnée. Vous voyez ? Mais cette collection, je fais là, je mets en exergue les siècles, 2e, 3e, 4e, 5e. Ce texte peut collecter des textes du 2e, puis des textes du 3e, et puis des textes du 4e, et, mais ça fait une page. Vous voyez, c'est une collection de textes de différentes époques, hein, à un moment donné, mais qui collecte comme des tessons, vous voyez, comme une strate archéologique de différentes époques. Et il nous est parvenu à partir justement du 5e siècle. Et ce texte... était généralement, puisque c'est une collection, n'était pas écrite par quelqu'un, était collectée par quelqu'un. Donc on ne connaît pas l'auteur de celui qui a collecté. D'où, pour donner importance au texte, on dit ce sont les apôtres qui l'ont écrit. Ou même parfois on dit le testament de notre Seigneur Jésus-Christ, au 5e siècle. Je vais retrouver le testament de Jésus. On veut donner autorité au texte et on l'a attribué aux apôtres. Et donc ce texte est important parce qu'il nous relate, c'est le seul, c'est unique, il nous relate tout le processus d'initiation à cette époque-là. Vous le voyez, c'est un texte assez long, hein, qu'on ne va pas décortiquer tout. Donc je vais vous donner les grandes lignes. Ça fait presque 4 pages. Hein. Ça vous montre l'importance de ce texte. Pourquoi ce texte est important? Parce que, d'abord, c'est un texte qui était un best-seller à son époque. Comment on connaît si un texte est un best-seller? C'est quand il est traduit dans plusieurs langues. Et ce texte était traduit du grec, c'était un texte grec, traduit en syriaque, en arabe, en éthiopien, en copte, toutes les langues possibles chrétiennes de l'époque. Ça veut dire que ça avait du succès. Et donc, ça a fondé les pratiques liturgiques de la chrétienté. Et puis, l'important pour une deuxième raison, et c'est peut-être la plus importante pour nous, c'est que ce texte, au moment où, après le concile, au moment du concile, les pères conciliaires, et nous y reviendrons, on demandait qu'on renouvelle, d'abord, qu'on restaure la pratique du catéchuménat et qu'on écrive un rituel pour les catéchumènes. Ils n'avaient pas de rituel, ils avaient un rituel, mais qui était désormais un rituel dépassé. Et donc, ils disent il faut qu'on ait un modèle pour écrire un rituel. On ne va pas écrire nous-mêmes un rituel. Et ils vont se référer, entre autres, à ce texte. Et vous comprendrez pourquoi. Tout d'abord, lisons juste la première partie. On dit ceux qui se présentent pour la première fois afin d'entendre la parole seront amenés tout d'abord devant les docteurs avant que tout le peuple n'arrive et on leur demandera la raison pour laquelle ils viennent à la foi. Ceux qui les ont amenés tenant leur sujet, s'ils sont capables d'entendre la parole, on les interrogera sur leur état de vie. Est-il une femme? Est-il esclave? Si quelqu'un est esclave d'un fidèle, mais si son maître lui permet, il entendra la parole. Si son maître ne témoigne pas son sujet, qu'il est bon, on le renverra. Si un maître est païen, on lui apprendra à taire à son maître, pour qu'il n'ait pas de calomnie. Si un homme a une femme, ou si une femme a un mari, on leur apprendra à se contenter. Le mari est de sa femme, et la femme est de son mari. Si quelqu'un ne vit pas avec une femme, on lui apprendra à ne pas commettre la fornication, mais à prendre la femme conformément à la loi, ou bien demeurer comme il est. Si quelqu'un possédait de démons, il n'entendra pas la parole d'enseignement jusqu'à ce qu'il soit purifié. C'est juste le début. Par là, je veux dire, vous avez vu comment les choses sont compliquées.
C'est très précis.
Vous savez, ça, les historiens sont gourmands de textes comme cela, parce qu'ils nous font vivre l'histoire. Comment on vivait au 3e, 4e siècle, dans une église chrétienne, c'était ça. Vous avez bien remarqué. Tout d'abord, on ne dit pas simplement on va leur enseigner le kérigme. Quand il dit ils entendront la parole, c'est la catéchèse, je vous fais remarquer. Ce n'est même pas la parole de Dieu, là. C'est vraiment le moment catéchétique. C'est pour cela qu'on parle de docteur. Ça veut dire que, vous voyez bien là, il y a déjà une église structurée. De l'église dans laquelle il y a justement des gens qui viennent demander la foi. Il y a un peuple qui se rassemble le matin dans l'église, il y a les docteurs, il y a ceux qui accompagnent le catéchumène, parce que c'est comme ça qu'on retrouve le mot désormais, il y a le mot technique catéchumène dans le texte. Il y a toute une structure ecclésiale très importante. Plus loin, nous verrons dans le moment du sacrement, du baptême, il y a les diacres, il y a les prêtres, il y a l'évêque. Il y a vraiment une église structurelle. Nous sommes là vraiment à un moment, Justin ne s'imaginait pas du tout ça. Et donc, on doit structurer la formation des nouveaux venus à la foi. Et donc, je ne vais pas m'arrêter sur la question, parce qu'ils vont détailler les métiers et les professions. Alors, ce n'était pas de la tarte, hein, je veux dire. Par là, je veux dire... Puisqu'il dit « on témoignera en notre faveur », il est évident qu'à l'époque, si on avait un métier qui était contre la possibilité d'être chrétien, il fallait renvoyer la personne, elle ne pouvait pas être baptisé. Je ne rentre pas dans les détails, mais je vous assure, même si ça nous surprend, que tous ces métiers pour lesquels on renvoyait quelqu'un, c'était tout à fait compréhensible, parce que derrière il y a toute une motivation chrétienne. Je donne l'exemple parmi d'autres, quand on dit le sculpteur ou l'artiste ne pourra pas exercer son métier, c'est parce qu'on sculptait des dieux et de la mythologie grecque. Et donc, il ne peut pas exercer parce qu'il n'y a qu'un dieu révélé par le Christ. Donc, c'est pour ça qu'il disait il doit. Parfois, c'est assez intéressant parce qu'il y a une grande nuance. Il dit il exercera son métier, mais s'il ne trouve pas de métier quand même, il peut encore le faire, mais quand même, il faut qu'il cherche quelque chose d'autre assez vite. Et donc, on est attentif aussi à appliquer. Mais par là, je veux dire qu'il y a une grade. Pourquoi souvent, on me demande comment on peut dater un texte. On le date grâce à ces informations-là. C'est-à-dire l'exigence pour devenir chrétien à l'époque, qui était une religion minoritaire, était telle qu'il fallait être très identitaire. Et donc, il y avait une urgence de la foi et donc une tenue de la foi, il fallait témoigner du Christ. Probablement nous sommes là entre la fin des grandes persécutions et le début de la liberté religieuse. On a encore le souvenir des grandes persécutions et on ne veut pas de chrétiens qui sont des lâches. Vous voyez ? Et donc on veut des chrétiens qui soient bien formés, bien conscients de ce qu'ils font. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui suit. Regardez le numéro 17. Là, oui. Mais donc, une fois que toutes ces personnes ont reçu cet examen et qu'ils ont dit oui, ça marche, tu peux recevoir la catéchèse, regardez, ils disent les catéchumènes entendront la parole pendant 3 ans. Ce n'est pas comme chez nous. Pendant 3 ans, cependant, si quelqu'un est zélé, s'applique à bien la chose, on ne jugera pas le temps de la conduite, sera jugé. Seulement la conduite sera jugée. Donc vous voyez, il y avait vraiment l'idée d'une catéchèse qui se faisait pendant le temps, le processus d'initiation, là on peut le dire, était très long. Et la catéchèse, vous voyez que du mot catéchèse naît le mot catéchumène. Catéchumène, kato-oikos, ça veut dire faire retentir dans l'oreille, entendre dans l'oreille, faire entendre dans l'oreille. D'où le fait que si je entends la prédication dans les oreilles, je suis celui qui entend, catéchumène. C'était le mot technique qui est né, en gros, à ce moment-là, qu'on retrouve à ce moment-là. Naturellement, vous voyez, 3 ans, là, numéro 17, 18 et 19 disent ce qu'on fait pendant ces 3 ans. Il y a une ritualité qui se fait pendant la catéchèse, assez souvent d'exorcisme, de prière. Il y a une séparation très nette entre les catéchumènes et les fidèles. Vous entendez bien le mot là aussi, fidèle, dit ce que dit le mot. Fidèle, celui qui avait professé la foi, donc qui était baptisé. Donc, ils ne peuvent pas prier ensemble, ils ne peuvent pas se donner le baiser de paix. Vous voyez, le baiser de paix est quelque chose de fondamental à l'époque. On ne peut pas s'échanger la paix parce qu'on n'a pas encore reçu le baptême et encore moins l'Eucharistie. Donc, il n'y a que les fidèles qui peuvent l'échanger entre eux. Et donc après, numéro 20, le moment où on va recevoir le baptême. Et vous voyez, c'est notre moment très important, un peu comme le premier, parce qu'on dit, numéro 20, quand on choisit ceux qui vont recevoir le baptême, on examine leur vie. Alors, une fois de plus. Avant, c'était la vie précédente. Là, c'est la vie en tant que catéchumène. Et en effet, vous voyez, dit, ont-ils vécu honnêtement pendant qu'ils étaient catéchumènes? Ont-ils honoré les veuves? Ont-ils visité les malades? Ont-ils fait toutes sortes de bonnes œuvres? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont déjà venus un peu chrétiens?
D'ailleurs, c'est toujours juste, puisqu'on demande aux catéchumènes d'écrire à l'État.
Leur lettre, voilà. C'est pour cela que je vous lis ce texte.
Effectivement, à recevoir le baptême.
Tout à fait.
La confirmation, et l'accompagnateur
doit témoigner
et donner son accord.
Tout à fait.
Donc c'est toujours juste.
C'était pour vous montrer d'où viennent nos pratiques aujourd'hui. Ils viennent de cette pratique-là, n'est-ce pas? C'est exactement ça. On dirait aujourd'hui, c'est l'appel décisif. Voilà. Dans nos pratiques catéchuménales. Bon, on y reviendra. Vous verrez comment ça se décale. Et donc, voilà. Alors, si oui, ils entendront l'évangile. Alors, c'est une expression qui me pose toujours des questions profondes. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en parle souvent avec mes étudiants, avec vous aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont jamais entendu l'évangile avant? Est-ce qu'ils peuvent participer à un moment donné à une liturgie de la parole plus conséquente? Est-ce que jusque-là, ils n'avaient pas entendu l'évangile? On lit l'évangile à l'époque? Ça, c'est un peu... Voilà, on ne sait pas bien ce que ça veut dire derrière là. Et puis donc, on a la préparation au jour du baptême. Je vous fais remarquer que nulle part, il est dit qu'il serait célébré à Pâques. On dit le dimanche. Qui a un caractère pascal, je vous fais remarquer. Déjà avec Justin soulignait comme le dimanche est le lieu de la résurrection du Christ. Et donc, j'ouvre une parenthèse, vous savez que avant même que nous célébrions Pâques, on célébrait le dimanche. Pâques est venu après le dimanche. Pâques a commencé à être célébré en tant que fête annuelle de la résurrection au IIIe siècle. Mais tout au début du christianisme, c'était le dimanche. Chaque dimanche était la fête de Pâques. Parce que c'était le jour de la résurrection. Et donc là, nous n'avons pas d'idée si c'était le jour de Pâques, chose qui est très importante par la suite, mais on dit le dimanche. Et puis donc, je vous fais passer toutes les indications à partir du chapitre 21, toutes les indications du rite du baptême, qui se complexifie dans la mesure où il y a une grande ministérialité et où, je vous fais remarquer, alors je vais chercher le passage, voilà. Regardez, page 5, numéros 7 et 8 en bas. Donc, il y a la plongée baptismale, elle commence au 6, ou même au 5. Et puis la dernière, 7, de nouveau, celui qui baptise dira, crois-tu en l'Esprit Saint de la Sainte Église? Celui qui est baptisé dira, je crois, ainsi il sera baptisé, une troisième fois. Ensuite, quand il sera remonté, il sera oint par le presbytre. Ah tiens, l'onction. Par le fait, et de lui donne l'action de grâce avec ces mots, je toins l'huile de sainte au nom de Jésus-Christ, et ainsi chacun après s'être essuyé, se rhabillera, et ensuite ils entreront dans l'église. L'évêque, en leur imposant la main, dira l'invocation. Seigneur Dieu, qui les a rendus dignes d'obtenir la rémission des péchés par le vin de la régénération, rends-les dignes d'être remplis de l'Esprit Saint et envoie sur eux ta grâce afin qu'ils te servent suivant ta volonté, car à toi est la gloire, Père, Fils et Esprit. Amen. Ensuite, en répandant de lui d'action de grâce de sa main, en posant sur la tête, il dira, je toins l'huile sainte à Dieu, le Père de l'Esprit Saint, et après avoir signé le front, on lui donnera le baiser et dira, le Seigneur soit avec vous. Là, nous avons l'apparition de la confirmation, de ce que nous appelons aujourd'hui la confirmation. Mais vous voyez, j'aimerais bien que vous passiez l'émergence de ce geste qu'on appelle confirmation comme la suite du baptême. En sortant de la piscine, on le voit. C'est comme si on avait senti besoin à une époque précise de prolonger par un geste matériel qui touche, qui est même accompagné d'une matière qui est l'huile, de dire autrement le don de l'esprit. La vraie question là, qui commence à apparaître, et nous la verrons apparaître de plus en plus, c'est, mais alors l'esprit est donné au moment de l'immersion ou au moment de l'onction? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui par rapport au baptême des petits-enfants, surtout du baptême des petits-enfants, nous le verrons dans le rituel. Mais là, vous comprenez que ce n'était pas la question telle que je vous l'indique là. La question, il n'y avait même pas de question. On voulait prolonger par un geste, dire, ah tiens, tu as vraiment reçu l'Esprit Saint au moment du baptême et je toins avec lui du baptême, avec lui de l'onction, n'est-ce pas? Mais il y a cette émergence, cette volonté de le signifier par un geste. Ça y est? Et puis donc, il y a l'Eucharistie. Je vous fais remarquer que dans ce texte, on communie, c'est un unicum, c'est le seul témoignage qu'on ait hein, dans l'histoire des cultes, on communie pas seulement au pain et au vin, mais on communie aussi à l'huile, à l'eau, excusez-moi, au lait, au miel et à l'eau. C'est-à-dire qu'on consacre sur l'autel pain, huile, vin, lait, miel et eau. Vous verrez, dans la communion, on donne d'abord le pain, le vin, et puis on donne le miel, le lait. Pourquoi? Le texte dit parce qu'ils ont passé, ils sont entrés dans la terre promise. Donc on signifie, c'est seulement ce moment-là, l'Eucharistie baptismale, dans laquelle on fait communier, on fait goûter l'huile, le miel et l'eau, parce que l'eau était l'eau du baptême. Donc c'est assez original, je dirais, et unique à cette époque. Je me propose, parce que ça nous... si nous commençons le texte d'Égérie, je ne fais que présenter Égérie, comme ça on sera prêt la prochaine fois pour lire le texte d'Égérie et terminer cette partie historique et puis nous commencerons le rituel. Mais l'autre témoignage, alors, je fais remarquer juste une chose. Nous sommes avec ce texte de la tradition apostolique dans une ritualité, vous l'avez remarqué, déjà très développée, extrêmement développée. Surtout, nous reconnaissons le processus d'initiation étalé dans le temps qui comporte des moments précis. L'entrée en catéchuménat, l'appel décisif, qu'on n'appelle pas comme ça dans ce texte, mais qui est un peu ça, le moment de préparation immédiate au baptême et le baptême, vous voyez. Donc tout ça, on reconnaît notre manière de célébrer aujourd'hui, n'est-ce pas? Et on peut recouper ça avec les rites du IVe siècle. Alors, vous ferez remarquer, probablement ces rites décrits par la tradition apostolique sont des rites encore célébrés dans une église qui vit un peu la persécution, mais à la fin des persécutions. Donc elle n'est pas si stable que ça, tout en étant très structuré. Alors que le témoignage, à partir du IVe siècle, donc je vous ferai remarquer pourquoi le IVe siècle est fondamental dans le christianisme, parce que c'est le siècle de la reconnaissance de la part de l'empereur Constantin du christianisme comme religion, pouvant être vécu et célébré dans les églises. C'est tellement important pour Constantin qu'il fait lui-même, à ses frais, construire des églises pour les chrétiens, à Jérusalem, à Rome, dans d'autres lieux. Hein. Et donc, les chrétiens peuvent se rassembler, tout s'amplifie, je dis toujours, et le rite et l'église. Donc, il y a augmentation des baptêmes, amplification des rites, et donc le premier témoignage de cette ritualité, nous l'avons d'Égérie. Qui est Égérie? Égérie, c'est une femme dont il faut faire mention tout le temps. Égérie est une femme pèlerine, elle est originaire probablement du sud-ouest de la France actuelle, c'est-à-dire de la Gaule de l'époque, probablement faisant partie d'une communauté de moniales ou de sœurs, parce qu'il adresse cette journal à ce groupe, il appelle mesdames ou mes sœurs, il les appelle comme ça, et part de son sud-ouest natal vers Jérusalem en pèlerinage au IVe siècle. Et chose inouïe, très moderne encore pour nous aujourd'hui, elle va écrire un journal de tout ce qu'elle voit et donc de ce qu'elle voit et qu'elle vit. Donc elle rend compte de tous les lieux où elle est allée, qu'est-ce qu'elle voit, qu'est-ce qu'elle entend. Et donc nous avons là une trace des pratiques chrétiennes à Jérusalem unique. Et qui plus est, elle parle latin, parce qu'elle vient du sud-ouest, de la Gaule romaine. Et donc, parfois, elle dit, ah, ici, on dit ça comme ça en grec, mais chez nous, on le dit comme ça en latin. C'est presque un vocabulaire ambulant, vous voyez. Il nous rend compte de même de la possibilité de lire ça. Une femme extrêmement moderne, en ce sens-là. Et donc, elle nous relate, effectivement, de la manière dont on initie les catéchumènes, et donc les futurs baptisés, à Jérusalem, au IVe siècle. Et nous verrons la prochaine fois, parce que là, ça se fait, c'est un peu juste, comment elle en parle. Vous pouvez commencer à le lire, même je vous conseille, si vous en avez envie, achetez le journal de voyage de Jérusalem. Ça se lit comme un journal, hein, vraiment. Elle relate les lieux saints, comme on les connaissait à l'époque, et c'est vraiment très intéressant. Et nous le verrons par rapport au baptême la prochaine fois. Le témoignage d'Égérie va nous fixer la manière dont l'initiation est célébrée au IVe siècle. Et donc, après, nous verrons comment ça évolue et nous arriverons à nos rituels. Merci pour votre présence. Merci.